Bon, écoutez, votre invitation m'a enthousiasmée et je vous en remercie. Je suis très heureuse de vous retrouver, Valérie et Elisabeth notamment. Depuis tout ce temps, je me faisais vraiment un plaisir de venir vous voir et de découvrir vos travaux, votre séminaire de plus près, de discuter avec vous d'un travail en cours, de tester un petit peu. Hein, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais un peu tester la présentation d'un travail en cours. Et je regrette profondément que cette présentation ne soit pas l'occasion d'une vraie rencontre. Et comme beaucoup d'entre vous, je passe mes journées sur Zoom pour des réunions et surtout pour dispenser mes cours. Et cet exercice ne me satisfait vraiment pas du tout. Et je vous prie d'ores et déjà de bien vouloir excuser mon manque d'énergie lié, je pense, à une certaine lassitude. Donc, je vais appuyer sur un texte écrit que je vais lire face à tous ces petits carrés dans lesquels je vous vois enfermés les uns et les autres. Je vais vous présenter mes travaux sur la mort et son traitement en deux temps, pas forcément connectés entre eux aujourd'hui, mais qui tous deux s'inscrivent dans une thématique générale qui traverse toutes mes recherches et qui concerne les restes, la perte, les actions techniques qui s'y appliquent, leur dimension politique et les mécanismes de subjectivation qui s'y articulent. La mort et son traitement n'est pas central dans mes recherches, mais je l'ai croisé à plusieurs reprises. Contrairement à vous, je ne me sens pas complètement spécialiste du sujet, mais voilà, je l'ai croisé. Dans un premier temps, je vous parlerai d'un travail que j'ai mené plutôt dans le champ d'une ethnologie du travail et des techniques, en compagnie notamment de Cyril Audanski, à la morgue donc du CHU de Nice, et dans le cadre d'une réflexion plus générale, tu l'as évoqué Valérie, sur le travail, le sale travail ou le travail sur le négatif, pour reprendre l'expression de Dominique L'Huillier. Et cette recherche s'est articulée à l'organisation donc d'un colloque dont tu as parlé et de la publication donc du numéro de Technique et Culture, dans lequel Cyril et moi avons publié l'article Comment y mettre les mains, sur lequel je vais beaucoup m'appuyer là, dans cette présentation. Dans un deuxième temps, je vous parlerai d'un programme de recherche en cours et suspendu, comme beaucoup de recherches. Et bon, voilà, là aussi, hein, c'est vraiment en cours et très, très en cours, on va dire, sur les effets spatiaux de l'attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice. Et cette recherche-là s'inscrit davantage dans le cadre d'une anthropologie urbaine en ce qui concerne ma contribution. Et la problématique concerne la façon dont les usages d'un territoire font avec la perte et comment cette dernière transforme les territoires eux-mêmes. Alors, pour cette deuxième partie-là, je m'appuierai sur un texte à paraître dans la revue Urbanité, écrit à six mains en compagnie de deux collègues, une géographe, Karine Mselem, et un psychologue clinicien, Frédéric Vigneault. Voilà pour la présentation générale de ce dont je vais essayer de vous parler. Je vais maintenant aborder donc le premier point, entrer dans le vif du sujet, aborder le premier point qui concerne les agents de morgue ou encore du déposoir ou encore de la chambre mortuaire du CHU de Nice. Ça va, vous me suivez? Vous êtes là. Alors, tout en développant mes travaux sur les personnes qui prennent en charge les eaux usées, et après avoir développé des comparaisons entre la France et le Maroc, mais également de façon beaucoup plus succincte l'Inde, l'Égypte et le Bangladesh, j'avais le sentiment de ne pas être allée tout à fait au bout de ce que je cherchais à savoir et à comprendre. J'avais le sentiment de ne pouvoir en rester là. Je voulais examiner des expériences, des états plus radicaux de la matière, hein, dans les travailleurs confrontés à des états plus radicaux de la matière, ou bien mettre en perspective ce que j'avais vu auprès des égoutiers avec d'autres situations, d'autres substances, d'autres restes, etc. Et un choix s'est présenté. Soit je continue à travailler sur des déchets en m'intéressant aux déchets ménagers, aux activités de recyclage ou à des politiques plus, à des problématiques environnementales, pardon. Soit je poursuivais une réflexion m'attachant davantage à creuser du côté des substances et d'états du corps socialement rejetés. La dimension corporelle des substances excrémentielles m'intéressait particulièrement. Et je la trouvais pas forcément, évidemment, autour d'autres déchets comme les déchets ménagers. Par ailleurs, les déchets, les restes entraient un peu trop à mon goût dans l'air du temps et j'avais envie de prendre un peu de recul vis-à-vis de toutes ces questions liées au recyclage, etc., etc. Et donc, du coup, il m'a paru intéressant d'aller plutôt, hein, du côté donc de travailleurs en lien, enfin, en lien, en but avec des matières et des états du corps plus radicaux. Par ailleurs, une des angoisses des travailleurs des égouts, et qui revenait régulièrement quand on était au fond des collecteurs, était la peur de tomber sur un cadavre humain, justement. Et il me disait, par exemple, il me racontait qu'il leur arrivait de sentir une odeur, hein, de corps en décomposition. Et donc, il me racontait la peur, l'angoisse qui les prenait, et puis le soulagement lorsqu'il découvrait qu'il s'agissait d'un rat et pas d'un humain. Enfin, bref, c'est quelque chose qui était très, très présent dans les récits. Bon, par ailleurs, on trouve aussi dans la préface de Luc de Hoche à De la Saoulure, hein, cette idée que finalement le cadavre serait l'expérience universelle première et intérieure de l'horreur et du dégoût. Et je me demandais, est-ce que finalement tous les déchets ne sont pas finalement des symboles du cadavre? Enfin voilà, je soulevais un peu ces questions-là, et donc j'ai eu envie d'aller y voir d'un peu plus près pour explorer justement le rapport au réel contenu dans des activités de travail liées aux déchets. En 2005, j'ai eu l'occasion de diriger une recherche sur le CHU de Nice, ce qui m'a donné accès à la chambre mortuaire donc de ce CHU. J'ai pu mener en 2006 une enquête, donc de quelques mois, hein, ce n'est pas une enquête au long cours, auprès d'agents hospitaliers chargés de recueillir des cadavres, de les conserver, mais aussi de mettre en œuvre des autopsies. Je me suis donc particulièrement intéressée aux ouvriers hospitaliers, aux agents sans formation initiale, aux professions funéraires. C'est ce qui m'intéresse. En fait, c'est ce qui m'intéresse, ces positions finalement dans lesquelles la confrontation à la matière, la pensée de la matière et du travail n'est pas encadrée, soutenue en fait par des diplômes, par une valorisation sociale. Et cette position-là, les pensées, la façon d'élaborer des réponses et des significations dans ces situations-là m'intéresse. Je ne sais pas si c'est très très clair. Enfin bref, ces agents donc de la chambre mortuaire ont pour fonction de récupérer les corps dans divers services du CHU, d'en assurer la conservation dans des chambres froides. Et lorsque les proches, hein, les familles ne font pas appel à une entreprise de pompes funèbres privée, ces agents hospitaliers habillent les morts, recousent leurs blessures, les maquillent afin qu'ils puissent être présentés dans les salons dans lesquels vont venir se recueillir les proches, salons aménagés au sein de l'hôpital et mis à disposition par l'hôpital public. D'autres agents, hein, dans ce groupe-là, d'autres agents dits d'amphithéâtre, étaient rattachés, eux, enfin, tout en effectuant ces activités, étaient rattachés également au service de médecine légale. Et lors d'autopsie, ils ouvrent les corps. Parfois, j'utilise le passé et le présent, mais ils existent toujours, bien évidemment, ils sont toujours là. Ils ouvrent les corps, les découpent selon les demandes des médecins légistes, puis les recousent et essaient de les mettre en état de pouvoir être à nouveau exposés aux proches. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'expérience de ces professionnels ne se fonde pas sur des connaissances stabilisées et reconnues, contrairement aux médecins légistes ou aux thanatos. Tracteur, par exemple, les gestes et les savoirs ne sont pas standardisés, sanctionnés par un diplôme d'État. Et tout comme les égoutiers auxquels je me suis longtemps intéressée, ces hommes, nous avons rencontré des hommes, hein, dans ce service-là. Il y avait une seule femme qui était la directrice du service, justement, enfin du déposoir. Donc ces hommes ont pour tâche de faire fonctionner des installations collectives qui produisent et encadrent le déchet. Ils travaillent, hein, à séparer, à tenir séparée la vie de la mort, et paradoxalement, dans ce but, ils effectuent des gestes qui vont transgresser cette séparation. Toucher les excréments pour les égouttiers, manipuler, ouvrir les cadavres, les regarder. Donc, ils sont au cœur de ces mécanismes, en sont un rouage, et sont conduits, de par leur activité professionnelle, à penser des états de la matière, à toucher des matières, enfin des états du corps, dont les mécanismes civilisationnels conduisent le reste de la société à se détourner. Et donc, il m'intéressait de saisir, comme je l'avais fait auprès des égoutiers, les réponses, hein, que ces travailleurs mettent en œuvre dans ce contexte de transgression. J'insisterai sur deux points dans le cadre de cette présentation, deux points sur lesquels nous avons insisté également avec Cyril dans le cadre de notre article. Donc, j'insisterai sur deux points. Le premier concerne le rapport au métier, au savoir-faire, hein, tel qu'il est justement traversé par le dégoût, l'effroi, requestionné, retravaillé hein, par les goûts et le dégoût et l'effroi. Et le deuxième concerne la tension entre cadavres et déchets qui nous a semblé être au cœur finalement du sujet, au cœur de ces activités. Auprès de ces travailleurs, et nous ne sommes pas les seuls ni les premiers à l'avoir constaté, je pense à Pascal Trompette, Judith Wolff, Dominique Mémy, nous avons observé combien le dégoût et l'effroi, le rejet, non seulement ce qu'éprouvent les travailleurs, mais ce que manifeste la société à l'égard de leur activité et des matières dont ils s'occupent, détermine donc ce dégoût, ces effrois, détermine l'organisation des tâches, leur distribution, leur contenu, et les significations qui leur sont attribuées. Alors, les agents de la chambre mortuaire, lorsqu'ils traversent un service hospitalier afin d'aller y chercher le corps d'un patient décédé, s'appliquent à faire en sorte de ne pas être vivant. Et tout un dispositif spatial organise cette invisibilisation. Des couloirs, des ascenseurs qui partent du sous-sol et qui arrivent dans les parkings. Chaque hôpital a un dispositif particulier qui organise cette invisibilisation. Et vraiment, quand je les accompagnais, les travailleurs en question étaient dans une tension, hein, tendue. Il ne fallait pas qu'on les voie. Il ne fallait pas qu'on voie ce qu'ils transportaient, vraiment. Mais d'un autre côté, s'ils ne souhaitent pas être vus par les patients, ils ne souhaitent pas être scotomisés, ignorés par les soignants. Voilà. Et là, pour le coup, le fait d'être ignoré, évité par les soignants était quelque chose qui était vécu comme quelque chose de violent, un rejet, et n'était pas accepté. Et je cite, « Quand on sort d'un service en amenant un corps, on dirait qu'on est invisible, personne ne nous regarde. Des fois, je dis bonjour et on ne me répond même pas. » Un agent de la chambre mortuaire m'expliquait qu'à une époque, il passait parfois des personnels hospitaliers qui se signaient en les voyant passer. Et que pour lui, c'était quelque chose de… Voilà, c'est comme si on leur portait malheur. Enfin bon, récit, hein, je ne l'ai pas vérifié, mais c'était un récit qui m'a été fait à 2-3 reprises. Alors, au CHU de Nice, les locaux réservés à leur activité sont situés en bordure de l'hôpital, l'hôpital Pasteur. Hein, les locaux sont situés en bordure de l'hôpital et un agent décrivait ainsi cette configuration. Le reposoir, c'est un peu à l'écart dans l'hôpital, c'est le dernier wagon, c'est Alcatraz. Ils nous ont même mis des barbelés. Avant, on avait la cheminée, c'était la cheminée de la laverie. Mais c'est dingue, parce que c'est vrai. Enfin bref, heureusement qu'ils nous l'ont enlevé, on aurait dit d'achat. La simple observation des conditions de travail donne donc à voir invisibilisation, relégation spatiale, impopularité des savoirs et fragilité des supports symboliques. Et à titre d'exemple, enfin notre exemple, quand on a amené notre travail pour le CHU nous avait demandé ce qu'on a refusé de faire, comme souvent ça se fait, demander aux anthropologues de proposer des modifications. Et le CHU est en train d'être cassé et reconstruit. Alors, certains lieux, certains services n'étaient pas cassés et reconstruits, et c'était évidemment le cas de la morgue et de la chambre mortuaire, hein, qui, elle, restait en l'état. Et donc, nous avons refusé, quand nous avons restitué notre rapport, de donner des conseils. On en a donné un seul, et je vais vous indiquer lequel. On a expliqué, donc ce n'était pas notre métier, mais quand même, celui-là, ben, on s'est permis d'en parler au directeur de l'hôpital à l'époque. Donc, les agents de la morgue, en fait, cette morgue, donc, elle se situe à l'entresol, un parking. Alors là, j'aime bien faire des gestes, et là, voilà, c'est là que c'est compliqué, les gestes, sur Zoom. Bref, un entresol. Donc, pour y accéder, on doit passer sous une dalle, en fait. C'est un parking sous une dalle avec des piliers. Et le plafond de cette dalle est noir de gaz d'échappement, noir. Il est noir parce qu'il est vieux, enfin, il est vraiment noir. Et les agents de la morgue nous expliquaient que, certes, ils travaillaient avec des morts, mais qu'ils travaillaient aussi avec des vivants. Et que la part la plus importante, enfin, une des parts, pas la plus importante, mais en tout cas la moins reconnue de leur travail, était justement ce travail auprès des vivants, puisqu'ils reçoivent des proches, hein, qui amènent des vêtements, qui amènent, ils reçoivent des ambulanciers, enfin, ils reçoivent des gens. Et ils disaient, mais vous voyez bien dans quelles conditions on ne pense tellement pas à l'hôpital, qu'on travaille aussi avec des vivants, on est tellement relégués, qu'on doit accueillir les gens dans ce contexte qui est très lourd, qui rendait leur tâche encore plus difficile, et notamment ce plafond noir. Et voilà, les gens arrivent, ils sont malheureux, et nous, on les accueille dans ces circonstances-là, et ça ne correspondait pas aux représentations qu'ils ont de leur métier. Et ce plafond noir leur envoyait sans arrêt l'idée que les mettait face aux représentations que l'hôpital, dans sa totalité, se fait de leur activité et qui ne correspond pas aux représentations qu'eux s'en font. Enfin, et ce dispositif, je ne sais pas si je suis claire là, ne les soutient pas dans leur activité, justement. Enfin, ça dit bien l'absence de soutien symbolique à l'activité dont ces travailleurs, auxquels ces travailleurs font face. Bref, et nous avons donc le seul conseil que nous avons donné au directeur du CHU était au moins de donner un coup de peinture sur ce plafond. Ce n'était pas le, on est bien d'accord, hein, on n'a pas à faire ça en anthropologie. On a dit, nous n'avons pas à faire ça, mais là quand même, voilà, un coup de peinture sur le plafond. Eh bien, à ce jour, le coup de peinture n'a toujours pas été donné. Et nous étions en 2007 quand nous avons rendu le rapport. Donc voilà. C'est un détail, mais non, ce n'est pas un détail. Hein. Voilà, ça dit bien l'absence de soutien symbolique et ça dit bien aussi le statut, la non-reconnaissance, la non-attention que l'hôpital et la Société Générale portent à ces services-là. Alors, les travailleurs attribuaient cette situation donc d'invisibilisation, au caractère indésirable de leur activité, qui selon eux disent l'échec des services de soins et de chirurgie. Ils disaient, mais si à l'hôpital on est dans cette situation-là, c'est parce qu'on leur envoie leur échec. Donc ce n'est pas possible finalement de nous faire une place visible et reconnue dans cet hôpital. Bon, il attribuait aussi au déni, à l'oubli organisé autour de la mort. Je cite, « La mort, c'est une barrière dans cette société et nous, on est déjà presque de l'autre côté. » Et cette phrase-là, je l'ai recueillie, mais à l'identique auprès des Gouty. Hein. C'était « La pensée s'arrête avant nous, nous, on est en dessous. » Toujours, voilà, cette position sociale. Alors, sur le terrain, nous avons observé combien cette activité professionnelle remettait pour ces travailleurs constamment en jeu leur humanité et donner lieu donc à des efforts et à une vigilance constamment réitérée. Et là encore, hein, cette idée de devoir constamment réitérer cette vigilance, cette attention, on la retrouve dans les travaux de Dominique Mémy, de Pascal Trompette et Sandrine Caroli qui décrivent la banalisation de la mort et qui disent de la banalisation de la mort qu'elle n'est pas une défense naturelle, qu'elle est une conquête quotidienne. Et on a vraiment observé ça sur nos terrains, et je l'avais aussi observé auprès des égoutiers, cette conquête quotidienne, cet effort réitéré en permanence. Et donc, vous me suivez toujours là, je me suis... Ouais. Cette configuration donne lieu à des mécanismes donc, qui sont contraires finalement à ce qui peut être observé dans d'autres situations de travail. Et je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, supporter le dégoût, la répulsion, l'effroi, savoir s'y habituer ou y faire face est présenté par ces travailleurs comme un élément, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est essentiel pour déclencher l'embauche. Du coup, l'embauche n'est pas déterminée, n'est pas pensée par ces travailleurs comme étant déterminée en vertu de formations professionnalisantes, mais elle est naturalisée, finalement inscrite dans le corps, ce qui supporte et ce qui ne supporte pas. Et finalement, elle est naturalisée par le fait de ne pas être dégoûtée ou effrayée par ce qui dégoûte les autres. Et dans les récits, on le trouve chez des égoutiers aussi. Voilà, oui, mais lui, il n'a pas pu tenir. Mais moi, pourquoi est-ce que je suis restée? Pourquoi est-ce que moi, je suis restée alors que d'autres ne restent pas? C'est parce que moi, je suis fait de sorte à supporter, à ne pas être effrayée, dégoûtée, depuis que je suis petit, même peut-être même avant que je ne sois née, par ces états de la matière et par ces choses qui effraient, dégoûtent les autres. Si éprouver ou exprimer trop vivement son dégoût, sa répulsion empêche l'entrée dans le métier, ne pas éprouver de dégoût et de répulsion est aussi problématique. La présence ou l'absence de ces affects soulève parmi les travailleurs des interrogations très sérieuses à propos de leur constitution physiologique, de leur équilibre psychique, de leur sens moral. Il ne faut pas avoir trop la vocation. Donc, il ne faut pas être dégoûté, mais en même temps, il faut l'être un peu. Et surtout, il ne faut pas avoir la vocation, il ne faut pas être attiré. Trop de vocation est suspect. Alors, je cite, je cite un agent de chambre mortuaire, ici, il ne faut pas embaucher les gars qui ont trop la vocation. Ce sont des fous, des pervers. Il y en avait un qui prenait en photo avec son téléphone portable les cadavres les plus esquintés. C'était son truc. Il aimait bien regarder ça. Certains aiment bien ça. C'est pas net dans leur tête. Mais des fois, c'est vrai, donc cet ouvrier me dit, je me fais un peu peur. J'ai peur d'être attirée. Et donc, les agents se questionnent régulièrement quant au sens de leur activité, aux limites à ne pas franchir, et en permanence. Les effets sur eux-mêmes, de l'action de la matière aussi, hein, comment est-ce que leur travail les transforme, est aussi une question régulière qui se pose et que j'ai rencontrée aussi auprès des égoutiers. Et le dégoût que l'on n'éprouve pas, que l'on supporte, ou l'effroi, hein, que l'on supporte, que l'on ne supporte pas, dit l'action du travail sur soi et va justement poser le problème de cette acceptation, hein, de ce façonnement. Pourquoi régulièrement les égoutiers et à la morgue aussi, je l'ai régulièrement entendu, me disaient, mais pourquoi j'accepte en fait de me faire ça? Pourquoi j'accepte que mon travail agisse de cette façon sur moi? Et donc, certains ont besoin de se rassurer en allant vérifier ou en étant, voilà, en étant de temps en temps égoutté, effrayé. Et l'un d'eux me racontait qu'il allait ouvrir des frigos qui contenaient des corps dans des états particulièrement violents, etc. Il était rassuré de voir que ça l'avait. Et l'un d'eux me disait qu'une fois il s'était fait peur parce qu'il était face à un cadavre de deux enfants et que ça n'avait rien fait. Et que là, il était, ça l'avait tétanisé, paralysé, ça l'avait effrayé. Et donc, aller se rassurer. En vérifiant hein, que quand même l'effroi, le dégoût, enfin, ces émotions-là sont toujours présentes en soi. Autre chose pose ce problème, c'est la routine. Il faut arriver à s'habituer pour agir et en même temps, il ne faut pas trop s'habituer. Et on voit bien en anthropologie des techniques combien la routine est indispensable pour réaliser des activités techniques. Et là, dans ce cas-là, ben, la routine pose problème. Donc, on a un inconfort, pas forcément tout le temps, mais quand même, hein, régulièrement, un inconfort face à cette routine. Et je cite encore quelqu'un qui me disait, des fois, j'ai peur de m'habituer, j'ai peur de trouver ça banal, tous ces morts, ces corps. Le jour où ça ne fera plus rien, il faudra que j'arrête, je ne serai plus humain. Et donc, il va s'agir de trouver le juste équilibre pour tenir sans devenir, voilà, sans basculer. Et autre chose aussi qui sur quoi j'aimerais bien revenir, qui est la question, alors c'était lors du colloque, c'était le premier colloque qu'on a organisé sur le cadavre, nous avions invité une psychanalyste, Elisabeth Ola-Lasselve, qui avait décrit finalement le cadavre comme un corps qui ne jouit plus. Et j'avais trouvé cette notion, enfin intéressante cette idée, un corps qui ne jouit plus, voilà. Et effectivement, moi, il me semble que face à ces corps qui ne jouissent plus, eh bien, pour les travailleurs, leur propre jouissance, la jouissance des travailleurs, là, je sens que je suis un peu moins claire, mais le désir, la jouissance des travailleurs qui sont, eux, dans des corps qui jouissent face à des corps qui ne jouissent pas, eh bien, devient pour eux problématique. Le plaisir, les émotions esthétiques qu'ils éprouvent dans leur travail, qu'ils retirent de certains de leurs gestes, soulèvent donc des interrogations complexes. Et ceci remet en cause, je ne sais pas si je suis très claire là, mais remet en cause de tout ce que je viens de vous dire là, remet en cause leur jugement esthétique. Et ça, je l'avais vu aussi auprès des égoutiers, la fragilisation de leur jugement esthétique, hein, en termes de bon, et qui du coup va accompagner aussi et confirmer un sentiment d'illégitimité. Avoir du plaisir lorsqu'on ne devrait pas en avoir. Pour les égoutiers, c'était s'habituer à des odeurs, ou trouver une odeur d'égout bonne, parce qu'elle dit qu'un égout fonctionne bien, alors que partout ailleurs, on la trouve dégoûtante, remet en cause hein, voilà, le sens esthétique, et du coup, accompagne un certain sentiment d'illégitimité. Bref, ça me semble intéressant. Pour continuer aussi, pour illustrer un peu cette position-là, je vais vous donner l'exemple du restaurant au CHU. Ben, il y a un restaurant, la cafétéria de personnel, hein, et les gens de la chambre mortuaire, les ouvriers, les agents, avaient du mal à aller y manger. Certains d'entre eux n'y allaient pas du tout. Un d'entre eux racontait que bien il avait eu un malaise, hein, qu'il s'était comme ça retrouvé à manger devant tout le personnel hospitalier, qu'il avait pensé à d'où il venait, ce qu'il faisait, ce qu'il venait de voir et de toucher, et qu'il s'était senti mal et que depuis ce jour, il n'allait plus manger à la cafétéria du personnel. Et ceux qui y allaient, avec lesquels d'ailleurs on allait manger avec Cyril pour justement observer ce moment-là, il partageait avec eux, en venant nous aussi de la chambre mortuaire, ceux qui allaient y manger, mangeaient toujours au même endroit et mangeaient très près de la sortie. Et un recoin qui n'était pas visible du reste de l'hôpital. Ça aussi, je l'ai observé dans un conseil général auprès du personnel qui s'occupait des eaux usées et de l'assainissement. Voilà. Et l'idée était, quand on en parlait avec eux, la crainte d'être regardé de travers. Le souci d'éviter de donner à voir son appétit, son plaisir à manger. Et parfois, y compris de la viande. Moi, je n'ai pas trop travaillé sur cette question, mais Cyril Odansky, lui, l'a plus creusé sur la question d'avoir faim, d'avoir de l'appétit, bien qu'on travaille face à des cadavres, et qu'il a aussi quelque chose qui provoque un grand trouble chez ces travailleurs. Voilà, et donc du coup, nous avons recueilli pas mal d'observations et de propos montrant que les agents sont nombreux à développer. Et ça aussi, c'est un point qui nous a intéressé, d'autres activités professionnelles dire leur activité par le biais d'un autre métier. Et ce point-là aussi, moi, je ne l'ai pas assez creusé, mais je creusais, pardon, excusez-moi, c'est la solitude. Dans mon bureau, je commence à ça, je vous vois, mais voilà, je me sens quand même un peu seule. Donc, je n'ai pas creusé cet aspect-là, mais j'aimerais bien, dans le cadre d'une ethnologie du travail, travailler cette question-là de dire son métier par un autre. Ou avoir à côté de son activité principale une autre activité. Alors, on a le travail à côté de Florence Weber, mais là, il m'a semblé que pour ces travailleurs-là, le travail à côté, l'activité à côté, et on l'a écrit dans l'article avec Cyril, agissait un peu comme une antidote. C'est-à-dire que, le corps est mobilisé autrement, dans une autre activité. Parfois, il s'agit d'activités avec les mêmes outils, mais qui vont être utilisés autrement. Et donc, encore une fois, ça donne un sens autre à l'activité, au cœur, au corps, au corps et à la technicité du travailleur. Et on avait, par exemple, un ambulancier, quelqu'un qui, en parallèle, était ambulancier. Et disait que, lui, il était ambulancier et soignant. Vous voyez, ramoneur, voilà, qui faisait du ramonage en même temps et qui nettoyait. On est là encore dans quelque chose qui élimine le noir et la saleté et qui nettoie. Donc, ces activités à côté, le corps est mobilisé autrement, donc inscrit dans des mécanismes de subjectivation différents, dans une autre action sur la matière, et puis aussi donc des façons de dire son activité par un autre. Et ça, on l'a observé dans tous les services de l'hôpital, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et par exemple, un agent à la morgue qui, lui, travaillait avec la médecine légale, disait, mais moi, finalement, j'avais envie d'être un peu policier, je rêvais d'être commissaire de police. Et là, finalement, c'est un peu ce qu'on fait, quoi. On cherche une vérité. D'autres avaient échoué comme infirmiers. Ils me disaient, finalement, on est un peu comme des infirmiers, on soigne les corps. Voilà. Et cette façon, encore une fois, de dire son métier, justicier. L'un d'eux était arbitre sur ses temps de loisirs et il nous disait c'est un peu la même chose, quoi. En fait, arbitre, on maintient une forme de justice, on est juste, on est droit, et mon travail, c'est ça, c'est rétablir. Parce que son idée, lui, c'était, je risque de déborder du temps, mais son idée, lui, c'était, l'idée qu'il avait de son métier, c'était rétablir une certaine justice envers les morts. Qui étaient abandonnés. Voilà, ils nous disaient, mais quand ils sont entre nos mains, on peut en faire ce qu'on veut. Enfin, ils sont complètement abandonnés, puis certains sont moins bien traités que d'autres, etc. Et nous, finalement, on rétablit une certaine forme de justice. Voilà. Et donc, il était arbitre, il mettait en parallèle ces deux activités. Voilà, et ce mécanisme-là m'a intéressée, dire son métier par un autre, qui finalement sont des façons de mettre en exergue d'autres façons de penser, de donner sens à son activité, de défendre certaines représentations de son propre travail. Et alors, tous ces troubles, ces fragilités, ces mécanismes-là dont je viens de vous parler un peu, nous ont semblé traversés par une tension qui concerne justement l'éventuelle assimilation des cadavres à des déchets. Hein. Et une assimilation qui finalement remet dangereusement en cause l'humanité des travailleurs dont je vous parle. Alors on trouve cette idée également très forte hein, chez d'autres auteurs, hein, l'idée que finalement assimiler un cadavre à un déchet, les cadavres de sa propre société ou d'autres sociétés à des déchets, remet en cause l'humanité de la société en question ou de celui qui effectue cette transformation, enfin cet acte. Et sur notre terrain, cette tension était manifeste. Vous me suivez toujours ? Je ne sais pas si je suis... Oui, bon. Cette tension est manifeste, hein, donc cadavre-déchet. Et elle oriente, nous a-t-il semblé, les gestes et les mots des travailleurs. Très rapidement, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais très vite, la première chose qui m'a été dite quand le premier jour sur le terrain, alors que je venais voir justement, eh bien après être allée, avoir passé du temps dans les égouts auprès des travailleurs de l'assainissement, je venais voir m'intéresser à d'autres substances, à d'autres... Et la première chose qui m'a été dite par les travailleurs que je rencontrais, c'était, nous, ce qui nous dégoûte et ce qui nous effraie le plus sur les cadavres, ce sont les excréments qui s'en écoulent. Donc j'avais une sorte de renvoi... les activités dont je venais. Et cette idée, finalement, que ce qui dégoûte le plus, eh bien, ce sont les excréments. C'est justement quelque chose qui renvoie à l'univers détritique et du déchet, me semble-t-il, dit hein, cette tension. On a remarqué aussi que le vocabulaire qui renvoie justement à l'univers détritique est très, très peu utilisé par ces travailleurs pour décrire les corps auxquels ils ont affaire. Hein, ils utilisent des surnoms, mais très rarement des termes qui renvoient aux déchets. On a repéré aussi auprès d'eux une désapprobation, mais assez violente et récurrente, vis-à-vis des proches ou des personnes qui, lorsqu'ils apportaient des vêtements pour habiller, enfin vêtir les morts, hein, apporter ses vêtements dans des sacs poubelles. Et donc les agents de la mort nous disaient, mais ça arrive vraiment plus souvent qu'on ne croit. On n'a pas pu l'observer par contre, mais c'était quelque chose qui leur faisait violence et qu'ils ne supportaient pas. Ils nous disaient, je cite, on voit des choses choquantes. Des familles, et il y en a plus que vous ne pouvez l'imaginer, qui apportent les vêtements de leurs morts dans des sacs poubelles. Ils nous déposent ça sur la banque, parce qu'il y avait une sorte de... C'est un manque de respect. Ça fait mal, parfois, de voir ça. Ces morts abandonnés par leur famille, qui s'en fichent complètement, qui ne font même pas l'effort de trouver un sac décent. Donc, cette idée de sac poubelle, qui renvoie forcément aussi aux déchets. Et puis aussi, des objets qu'ils supportaient mal, qui étaient dans la salle d'autopsie, étaient encombrés de ça, qui contenaient des prélèvements qui étaient en attente, hein, soit d'être incinérés, soit d'être traités, et qui étaient là, suspendus depuis des jours et des jours. Et cette présence, lorsqu'elle durait, incommodait profondément les agents, et elle leur était insupportable. Et ils nous disaient, c'était vrai d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y en avait quand même un certain nombre hein, de sacs comme ça, contenant ces éléments, je cite, on est envahi, on ne sait pas ce que l'on va en faire, ça prend toute la place, personne ne sait nous dire, personne ne prend de décision et il reste là. Et il nous a semblé que ces objets-là qui étaient entre deux, justement, pas jetés, mais du corps, pas entre, voilà, qui n'avaient pas de statut et justement disaient toute cette tension entre ben, le cadavre et le déchet, hein, puisque. Ils étaient là, à cet endroit-là, hein, sans signification ou partagés, suspendus entre plusieurs significations, morceaux de corps à jeter, restent avoués être inhumés ou au contraire incinérés, pièces à conviction, pièces anatomiques potentiellement identifiables. Voilà, et ces objets dont on ne savait pas trop que penser sont pesants pour ces travailleurs. De même que les corps non identifiés, nommés X, hein, qui sont comme ça dans les tiroirs, lorsqu'ils restent longtemps, plusieurs mois sans être identifiés, devenaient extrêmement pesants parce que justement, me semble-t-il, on est dans ce statut d'objet en reste hein, qui rappelle hein, cette tension entre cadavres et déchets. Et justement, cette tension entre cadavres et déchets, me semble-t-il, est l'endroit où ces travailleurs placent en quelque sorte la dimension vocationnelle de leur activité. Ils définissent souvent leur travail comme une lutte contre l'abandon, hein, justement, se situer à cet endroit-là et faire en sorte. Et leur vocation, quand ils évoquaient leur vocation, il me semble qu'elle était souvent là, faire en sorte justement que le cadavre ne devienne pas un déchet, ne soit pas abandonné. Et c'est pour cela donc que dans le cadre de cette étude et pour penser ces situations, que je viens de vous exposer, il nous a semblé qu'il pouvait être intéressant, alors c'est peut-être pas nouveau, mais en tout cas nous, ça nous a semblé avoir une valeur heuristique pour comprendre ce qui se passait. Donc, intéressant d'envisager le cadavre justement sous l'angle d'un déchet potentiel. Voilà la proposition que nous avons faite à l'issue de notre réflexion. Et cet angle nous a permis donc de mettre en exergue et de penser finalement ce à quoi nous avions affaire. À mettre en exergue justement les tensions qui traversent le moindre geste. Et c'est aussi ce qui me semble très intéressant dans le travail sur les déchets, les cadavres, et Dominique Mimi l'a bien montré dans ses travaux, c'est on voit bien à quel point les gestes ont une dimension hyper signifiante. Le moindre geste a une dimension hyper signifiante, ce qui peut être, comment dire, heuristique pour l'anthropologie des techniques en général. Mais à cet endroit-là, on voit bien à quel point le fait de déplacer un objet de 3 cm conduit à un basculement de sens fondamental. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour penser les techniques en général, l'anthropologie du technique et du travail en général. Voilà pour la première partie de ma présentation, enfin de ce que j'avais envie de vous dire. Bon, c'est un peu particulier, hein, comme construction, comme situation. J'espère que ça va toujours de votre côté. Je vais donc aborder la deuxième partie, sans transition là pour le coup, hein, qui concerne donc le travail sur l'attentat du 14 juillet, sur la promenade des Anglais. Cet attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais a fait 86 victimes et puis une 87e victime quelques temps après. 450 blessés sur 2 kilomètres. Et la recherche que nous menons, la recherche dont je vais vous parler, enfin ce dont je vais vous parler, s'inscrit dans un programme IDEX plus large qui réunit des linguistes, des artistes, des psychologues, des géographes, des anthropologues de l'université, donc Côte d'Azur, puisque l'université de Nice s'appelle maintenant l'université Côte d'Azur, marque image Côte d'Azur, hein, puisque nous sommes dans une sorte de mutation, hein, de l'université, et que l'université de Nice, j'en profite pour le glisser, est quand même un établissement expérimental, hein, puisqu'il s'agit de l'université qui était dont Madame Gidal était la présidente. Donc on a quand même un statut un peu particulier, si vous voulez, et nous nous appelons donc maintenant l'université Côte d'Azur. C'est la marque image, l'université Côte d'Azur. Voilà, bref, ceci étant dit, je reprends donc sur ce travail-là, mené donc de façon pluridisciplinaire par des collègues de l'université. Je vais vous parler d'un petit aspect, hein, de cette recherche plus vaste qui porte justement, que je mène avec Frédéric Vineau, donc un collègue psychologue clinicien, et Karine Mselem, donc une géographe. Et nous essayons de croiser psychanalyse, géographie et anthropologie, en nous intéressant donc aux effets de la perte sur l'habité et sur la construction de territoires, et plus particulièrement, nous nous sommes intéressés à l'effacement ainsi qu'à la production des traces de l'attentat, c'est-à-dire comment on efface certaines traces et comment on en produit d'autres sur un espace urbain. Ça va, la transition, là? Parce que je parle assez vite en plus, je ne sais pas. Enfin bref, si vous me dites, vous mettez vos micros pour me dire si vous avez le sentiment que je passe du coq à l'âne. Bon, bref, voilà. Donc, c'est notre question-là. Dans le cadre de ce travail-là, nous nous appuyons sur des observations ainsi que sur les entretiens que nous menons auprès de professionnels, archivistes, urbanistes, jardiniers, policiers, agents de nettoiement, agents de pompes funèbres, jardiniers, etc., autant de professionnels impliqués dans ce mécanisme d'effacement et de production de traces. Nous menons des entretiens aussi auprès de victimes et d'usagers de la ville, hein, qu'ils soient niçois ou pas. Nous développons ce travail de terrain depuis 2 ou 3 années de façon de plus en plus intermittente, voire là, ben, pour le coup, très, très interrompue, étant donné les circonstances. Et moi, il m'a fallu un certain temps, en fait, pour m'y mettre. Je n'avais pas prévu de vous le dire, mais voilà, j'ai envie de le dire quand même, parce que ça me pose question aussi avec ce qui se passe autour du Covid. Ce programme, on a eu des financements, hein, pour le mener, la promenade des Anglais, voilà, c'est un sujet évidemment intéressant. Mais moi, j'étais très gênée de démarrer très tôt, parce qu'il me semble que l'anthropologie, enfin, je suis convaincue que l'anthropologie a besoin de temps pour réfléchir et pour être face à des objets moins brûlants, quoi. En fait, c'est classique, hein. Mais du coup, voilà, moi, j'ai pu le démarrer en 2018, 2018-2019, vraiment, alors que le projet avait démarré bien plus tôt. Je me suis rendu compte finalement que mes deux collègues, psychanalystes et géographes, aussi, il nous a fallu ce temps entre l'événement et le début de l'enquête pour pouvoir nous mettre au travail. Bref, voilà, donc nous avons mené ces entretiens, nous sommes là un peu suspendus et j'ai envie d'essayer donc de tester en quelque sorte devant vous, hein, les premières conclusions ou les premières réflexions que nous avons développées sur le sujet. Nous nous sommes intéressés à la multiplicité des lieux dédiés aux morts à différentes échelles, qui renvoie au caractère multiple de chaque identité, donc les cimetières, les tombes, les mémoriaux officiels, les mémoriaux de fortune, les manifestations sur les lieux du décès ou de l'accident. Une équipe travaille aussi sur les réseaux sociaux et les espaces numériques, mais je vais m'en tenir là à la part de notre travail qui concerne l'espace physique de la promenade. Voilà, je vais rester sur l'espace physique de la promenade et ce que nous avons pu y observer. Alors, nos analyses sur les attentats s'insèrent dans un ensemble de travaux, hein, sur les attentats en milieu urbain occidental, dans le champ de la sociologie et de l'anthropologie contemporaine. Voilà, Jérôme Truc, hein, qui travaille dans une perspective comparatiste et qui soulève des questions et des objets relatifs à la construction de la mémoire sociale des attentats. Béatrice Frankel, hein, qui a travaillé sur les pratiques d'écriture et de lecture dans l'espace urbain post-attentat. Il y a également un programme important, le programme 13 novembre, dirigé entre autres par Denis Péchanski, donc un programme des historiens qui recueille la mémoire des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, qui recueille des témoignages et qui ont publié donc récemment un ouvrage à ce sujet. Nous, nous trois, Frédéric Vinault, Karine et moi, nous avons essayé d'adopter une posture un peu structuraliste pour construire notre analyse. Voilà, un peu. Enfin, si ça peut exister un peu. Enfin, voilà, et c'est ce que je vais essayer de tester là. Donc, une posture un peu structuraliste pour penser le deuil, et en particulier ici, le deuil public, à partir de ses effets spatiaux, donc sur la promenade des Anglais. Avec donc notre collègue psychanalyste, Frédéric Vinault, nous avons essayé d'être attentifs à ce que la psychanalyse pointe dans le deuil, hein, qui est que l'endeuillé perd quelque chose de lui-même dans le deuil de l'autre. Donc, l'endeuillé perd quelque chose de lui-même dans le deuil de l'autre, ce qui, en termes psychanalytiques, est nommé le redoublement de la perte, c'est-à-dire ce caractère double de la perte. Dans le deuil, on perd quelque chose de soi, et donc le redoublement de la perte. Et nous avons décidé de questionner plus particulièrement donc les manifestations spatiales du deuil public à partir justement de ce qu'elles évincent. Nous nous centrons donc sur le caractère double et forcément politique de ces productions, donc de la manifestation spatiale du deuil public, de la remise en ordre de la promenade, hein, leur caractère double et forcément politique, donc en prêtant attention à ce qui est éliminé ou rejetée en même temps qu'une mise ou une remise en ordre de l'espace a lieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En même temps qu'on remet en ordre l'espace, qu'est-ce qui finalement se perd, hein, donc la perte de la perte, le reste du reste. Enfin, moi, ce sont des choses qui m'intéressent aussi, cette idée de la perte, le reste du reste. Donc finalement, en même temps que se rétablissent des distinctions signifiantes, après que celles-ci aient été abolies par l'attentat, qui a provoqué une mort indifférenciée et indifférenciante, en même temps donc, que ce travail du symbolique se remet en mouvement, finalement, qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui est évincé, qu'est-ce qui chute du côté du reste et de la perte? Donc la perte de la perte, encore une fois, le redoublement de la perte. Ça va, à peu près? Essayez de... Bon. Voilà. Donc je vais essayer là d'exposer deux aspects de notre réflexion. Un va porter sur le réaménagement urbanistique et sécuritaire de la promenade des Anglais, hein, qui a eu lieu donc peu de temps après l'attentat. Et je vous parlerai peut-être assez rapidement aussi du mémorial, qui est un mémorial qu'on ne sait pas s'il est pérenne ou pas, qui se situe dans les jardins de la Villa Masséna, un petit peu en retrait de la promenade, on ne le voit pas de la promenade, enfin bon, voilà une position un peu particulière. Donc, je vais commencer par vous parler donc du réaménagement de la promenade. Donc, la promenade des Anglais est une avenue donc longue de 7 km. C'est tout à la fois un lieu quotidien, un lieu touristique de renommée internationale. Elle joue aussi un rôle économique et politique important à Nice. Et il nous a semblé qu'elle entretenait un lien métonymique avec la ville de Nice. Nos observations et nos entretiens donnent à voir combien ce qui touche la promenade touche Nice dans sa totalité. Et pas forcément en ce qui concerne l'attentat. Alors, pour vous décrire un peu les transformations de cette promenade à partir de l'attentat, donc après le surgissement du camion, la sidération, le désordre, puis le silence ont gagné l'ensemble de la promenade, mais aussi l'ensemble de la ville dans sa totalité. Et je vais citer... Un des premiers soignants arrivés sur place dit « La promenade ne ressemblait à plus rien de connu, à rien qu'on puisse imaginer. » Rien de connu, rien qu'on puisse imaginer. Un agent de la police municipale avec qui nous avons mené un entretien décrit une scène chaotique et je la cite « Tu es déboussolé, perdu, les gens entrent dans une émotion qu'ils ne connaissent pas, puis pas un bruit, l'impression que la ville s'est arrêtée. » Une agent des pompes funèbres aussi m'a dit la même chose, c'est-à-dire que après l'attentat, quelques heures après l'attentat, le silence a frappé non seulement la promenade, mais la ville tout entière. Deux jours consécutifs à l'attentat, la promenade a été interdite, elle est devenue scène de crime. Donc pendant deux jours, interdite à toute intrusion, hein, scène de crime, une immense scène de crime. Puis des personnes, des centaines de personnes, des Niçois, des touristes, des habitants de provenance diverses, sont venus, comme ça se fait, de façon, répandue, disposer des fleurs, des dessins, des drapeaux, des bougies, des peluches, des jouets, des anges et bien d'autres objets personnels ou funéraires, des messages inscrits sur toutes sortes de supports, papier, galets, déposés à même le goudron. Beaucoup de galets, hein, puisque la plage qui longe la promenade est une plage de galets. Donc le galet est un élément important et récurrent dans ces pratiques-là, dans de nombreuses langues aussi, hein, les messages. Ces dépôts sont venus sur la promenade, en quelque sorte, recouvrir les traces physiques de l'attentat, les traces de sang, les traces... Et la promenade est alors devenue une scène de deuil internationale, hein, puisque de profusion d'images ont été diffusées. Parmi nos interlocuteurs, certains ont souhaité reprendre immédiatement leur activité habituelle, plus quotidienne, de sportive ou de loisir. Et certaines personnes, j'ai fait un entretien à l'occasion d'un covoiturage d'ailleurs avec un jeune homme qui avait été présent au moment de l'attentat et qui me racontait que 3 jours après, il est revenu courir sur la promenade. Il le dit ainsi, c'était notre lieu d'entraînement, alors on a continué. C'était un peu difficile, il fallait sauter par-dessus les taches de sang, mais c'est là que je venais courir tous les jours et j'ai continué à venir y courir tous les jours. Et pour certaines personnes, il était important C'est compliqué de vous parler de ça comme ça dans mon bureau sans être avec vous. Mais pour ces personnes, il était important que la promenade ne devienne pas autre chose que cette avenue mondialement connue pour sa beauté. Il ne fallait pas que la... C'était vraiment une crainte pour certains, pas pour tout le monde. Il ne fallait pas que l'attentat la marque à jamais. Et très vite, à Nice, plusieurs points de vue se sont exprimés sur la place, la durée et la forme du deuil. Associé à la beauté, au loisir, au tourisme, au plaisir, mais aussi représentatif donc de la ville tout entière, la promenade pouvait-elle supporter les marques du deuil et de la perte, les traces de sang qui étaient l'angoisse et la peur. Devait-on y inscrire définitivement la mort ou au contraire, fallait-il effacer l'attentat et ses traces au plus vite? C'est une question très très compliquée sur ce lieu qui a le statut que l'on sait. Que fallait-il faire des mémoriaux de fortune et autres dépôts qui rendaient justement perceptible cette tension liée justement à la menace de voir la mort et ses signes envahir la promenade, mais de voir aussi la mort donner lieu à la présence de déchets et de détritus sur la promenade. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéressait de travailler, mais que... Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais et c'est comme ça que j'ai eu envie d'aller travailler sur ce projet. D'ailleurs, c'était cette tension entre ces dépôts de fortune ou éphémères qui peuvent se transformer justement en déchets, la tension là aussi qui traverse ces objets, qui est traversée par l'idée qu'il s'agit de déchets potentiels. Donc voilà, que faire de cette promenade, que faire de ces objets qui étaient... très très présent sur la promenade et qui se transforme sous l'effet du temps évidemment. Et les débats, enfin les points de vue étaient nombreux dans la ville. À peine une semaine après l'attentat, le maire de Nice a passé commande auprès de la direction des infrastructures de la circulation pour justement réaménager et sécuriser la promenade. Alors des travaux d'embellissement étaient déjà en cours sur la promenade, mais là il s'agissait dès lors de poursuivre ces travaux en y intégrant un dispositif de sécurisation intégré au paysage et dans un délai très court. C'était une des exigences du maire. Il ne fallait pas justement que la promenade soit trop longtemps imprégnée finalement par le deuil et par l'amour. Donc le délai devait être très court. Le choix politique était d'empêcher un scénario identique à celui déjà vécu. Le dispositif qui a été mis en place devait, donc c'était les consignes passées au chef de travaux, devait bloquer un camion de 19 tonnes, donc le camion qui exactement le même en fait que celui qui était dans l'attentat. Et ne serait-ce que ça, c'est assez intéressant de voir, avec un collègue psychanalyste, quelque chose qui relève quand même d'une répétition traumatique, puisqu'on prévoit le dispositif qui va empêcher exactement le même événement, alors que notre attentat pourrait arriver par la mer, les airs, enfin, pas la même chose. Mais la réponse est prévenir exactement la même chose. Voilà. Donc, il fallait prévenir exactement la même chose. Et faire en sorte que tout ça soit invisible. Donc, à partir du mois de février 2007, la scène de deuil a laissé place, donc sur la promenade des Anglais, a laissé place à un chantier. Et la promenade des Anglais donc, était mise en chantier, sans dessus-dessous, impraticable. Les 2 km parcourus par le camion ont été éventrés par des équipes et des engins de travaux publics très rapidement, finalement, après l'attentat. Un responsable du projet nous expliquait, nous devions faire en sorte que les gens, enfin, je trouve ces termes assez intéressants, nous devions faire en sorte que les gens se réapproprient la promenade, y reviennent vite. Et c'était cette idée-là, que les gens reviennent sur la promenade. Mais en fait, les gens y venaient sur la promenade, mais ils n'y venaient pas comme avant. Mais voilà, il nous dit qu'ils reviennent vite, mais de façon non morbide. Les Niçois, les premiers doivent revenir sur la promenade et les touristes aussi, car Nice sans les touristes, ce n'est pas le Nice qu'on connaît. Et donc, les traces de l'attentat devaient être effacées au plus vite, la peur éliminée et la mort circonscrite. Et c'était vraiment une obsession assez rapide mise en place et qui a traversé vraiment ces travaux et la commande qui était passée donc au chef de travaux et au service qui devait les effectuer. Les mémoriaux de fortune et les témoignages qui étaient donc déposés sur la promenade ont été déplacés vers un mémorial éphémère dans un jardin se situe en bordure de la promenade. Et cet endroit est devenu justement un mémorial éphémère où les gens sont venus déposer d'autres objets. Pour ce qui est du réaménagement de la promenade, des considérations esthétiques et sécuritaires ont été réunies. Il fallait, alors je cite le chef de travaux responsable du projet, il fallait embellir et sécuriser la promenade sans la révolutionner. Le dispositif de sécurité se devait d'être, et je le cite, transparent pour ne pas oppresser. La promenade, je le cite toujours, devait rester la même, tant du point de vue des pratiques que des éléments emblématiques. Et donc, un système de câbles et de piliers anti-intrusion rétractables a été mis en place. Des palmiers ont été implantés en plus, parce qu'il y avait déjà des palmiers, mais des palmiers en plus ont été implantés pour séparer la voie de circulation de la promenade, du lieu où passent les piétons et les cyclistes. Et là, d'ailleurs, c'était un petit point qui nous a intéressé. Donc, le chef de travaux nous a expliqué que dans le nouvel urbanisme, les arbres deviennent un des éléments de sécurité. Le nouvel urbanisme étant pensé avec des exigences sécuritaires croissantes, ça fait partie maintenant du travail des urbanistes, et les arbres interviennent comme des éléments, sont pensés comme des éléments pouvant contribuer en tout cas à la mise en place de dispositifs de sécurisation. Donc voilà, un système de câbles et de piliers, des piliers rétractables, les palmiers, parce qu'il fallait des palmiers sur la promenade ne serait plus la promenade sans palmiers, etc. Séparation donc des circulations douces et de la voie des voies automobiles, et la couleur blanche a été adoptée pour ce nouveau mobilier urbain, afin de, nous dit toujours le chef de travaux, le rendre transparent. Et le blanc était en pensée comme en harmonie avec le bleu de la mer, etc. Le revêtement au sol a été entièrement refait. Un asphalte étanche, choisi pour son confort et sa finesse, recouvre à présent la promenade sur toute sa longueur. Des couloirs de circulation ont été délimités, piétons, cyclistes, etc., beaucoup plus délimités qu'ils ne l'étaient avant. Et le chef de travaux donc, se félicite à présent, et c'est un élément qui me semble intéressant, de voir la promenade lisse, je le cite, lisse et unifiée sur toute sa longueur, alors que selon lui, avant l'attentat, irrégulière et constituée de portions différentes. On dit avant la promenade, en fait, c'était un patchwork taché, avec des problèmes de circulation, les cyclistes, les vélos, maintenant, donc, après l'attentat et grâce finalement à ce travail de transformation urbanistique de la promenade, eh bien, la promenade est une, elle est lisse et elle est identique sur toute sa longueur. Voilà. Et du coup, évidemment, ces propos et cette réalité nous ont intéressés. La promenade, donc, une, fermée, délimitée, elle est à présent encadrée, elle est à présent ordonnée et sécurisée d'un bout à l'autre. Elle est toujours blanche et bleue. Elle est tout à la fois presque la même et profondément transformée. Et un décideur considère même que le nouvel aménagement, en chassant, je le cite, en chassant toute morbidité, a sanctuarisé la promenade. En fait, l'aménagement a sanctuarisé la beauté et les plaisirs qui sont rattachés à la promenade. Et sur le coup, nous, on avait compris sanctuarisé, alors on ne comprenait pas, parce qu'il s'agissait à la fois d'effacer les traces de la mort, on était dans mémorial, mort, etc. Non, ce qui a été sanctuarisé, ce ne sont pas les victimes, ce n'est pas la mort, pas lié au deuil, mais c'est la promenade et les plaisirs, sa beauté. Ça y est, la promenade est protégée, définitivement immuable, et elle est sanctuarisée. Ce dispositif-là et le fait qu'elle soit aussi unifiée provoque parfois l'adhésion de Niçois et puis d'autres fois une forme de désapprobation. Je vais vous citer quelques extraits d'entretien. Donc, certains usagers approuvent donc ce dispositif, sont soulagés d'avoir pu, alors je cite, retrouver, je cite une employée municipale, cette part de nous-mêmes, donc la promenade, cette part de nous-mêmes. Les Niçois aiment la promenade, c'est Nice, la beauté, le soleil, ce bleu de la mer si particulier. Chacun de nous y a vécu des moments de bonheur. Sans elle, Nice ne serait plus Nice. Et pour cette dame, vivre des moments de bonheur sur la promenade, elle nous présentait ça comme l'essence même d'être niçois. Être niçois, c'est avoir vécu des moments de bonheur sur la promenade. C'est comme ça qu'elle le disait. Et donc, elle, elle était ravie, rassurée, heureuse, en fait, hein, que la promenade soit sanctuarisée. D'autres considèrent que cet aménagement a définitivement, à l'inverse, hein, alors, il y a cette question de la transparence. Certains, et notamment le chef de travaux, nous disent on ne voit pas le dispositif, c'est transparent, on a effacé les traces en fin d'attentat. Et certains approuvent. Et puis d'autres, au contraire, considèrent que cet aménagement a définitivement inscrit l'attentat sur la promenade des Anglais. Et un de nos interlocuteurs, natif de Nice, explique, enfin nous dit, je cite, « Ce lieu ne ressemble plus à celui que j'ai connu. Ce n'est plus la promenade de mon enfance. » Les caméras de surveillance, ils sont si nombreuses qu'elles s'enroulent autour des lampadaires comme des totems à l'effigie de la sécurité, assez inspiré. Les poteaux dressés me font penser à des herses. La promenade est fermée. D'un espace public, on est passé à un espace politique, un espace de contrôle aux connotations guerrières. Donc, on a vraiment, pour un même site, pour un même traitement, des positions... Et ici, là, dans ce cas-là, la sécurisation de la promenade, finalement, me semble-t-il, s'est faite au prix d'une perte. Hein, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Il a perdu, à travers cette sécurisation, il a perdu l'insouciance qu'il éprouvait sur la promenade, qu'il associait à la promenade. Il a perdu, finalement, la liberté qu'il ressentait sur la promenade. Et il a perdu aussi une certaine idée de ce qu'est un espace public, hein, puisqu'il est face à un espace sécuritaire, entouré de herses, qui pour lui n'est plus public en fait. Donc la perte, hein, voilà, je vous disais tout à l'heure qu'on s'est intéressé à finalement ce que ces reconstructions engendrent comme perte, et bien là, nous avons l'impression que de ce côté-là, enfin, je vous citais cet étudiant, mais ils sont quand même aussi nombreux, on a recueilli plusieurs propos de cet ordre-là, on a perdu quelque chose qui est de l'ordre de ben, la liberté, la légèreté, l'insouciance et l'espace public. A perdu quelque chose justement aussi de public. Voilà, alors on a recueilli également donc, le point de vue de victimes sur cet aménagement et notamment le point de vue du père d'une jeune fille morte dans l'attentat. Et ce père-là nous dit son trouble à ne plus retrouver l'endroit exact, hein, depuis les travaux, l'endroit exact où sa fille a été heurtée par le camion. Il nous dit, voilà, la promenade après le chantier, voilà. Il nous dit, je me repère à peu près au Negresco, je vois à peu près le Negresco qui est de l'autre côté, hein, sur l'autre trottoir, le Negresco, un pilier, là, je repère à peu près comme ça, et je le cite, c'est subtil, car c'est presque comme avant, mais vous ne retrouvez plus les endroits. Tout a été recouvert, enfoui. Je le ressens comme des ruines romaines enfouies, une autre civilisation qui est passée dessus à une vitesse folle, ça n'existe plus. Cet homme, je peux le citer parce qu'il s'agit de Thierry Vimal. Thierry Vimal, c'est un écrivain aussi et qui a écrit un ouvrage magnifique, 19 tonnes, sur sa vie et l'attentat. Et donc c'est Thierry Vimal hein, qui nous parlait du lieu comme ça. Thierry Vimal, il nous dit aussi qu'il a un rapport très personnel maintenant avec la promenade. Il nous dit, moi, la promenade, il parle de notre endroit. Par exemple, dans son ouvrage et dans les entretiens, il parle de notre endroit, l'endroit où sa fille a été heurtée par le camion. C'est notre endroit. Voilà, alors, il a du mal à le retrouver, mais il parle de notre endroit. Et la promenade est devenue aussi, hein, leur endroit. Et parfois, dans ses entretiens, il explique, on la rencontra plusieurs reprises, que finalement, quand il est sur la promenade, il a le sentiment, lui, que les règles hein, qui s'exercent sur la promenade ne s'appliquent pas à lui. Et sur la promenade, moi, je suis légitime et je fais ce que je veux. Les interdictions, je ne les respecte pas. Il se considère qu'il y a un statut exceptionnel et notamment, par exemple, Gucci, moi, on n'a pas le droit hein, de prendre les galets de la plage et puis de les amener chez soi. Moi, je fais ce que je veux. Quoi. Les galets, je les prends, je ne les prends pas. Enfin, c'est mon endroit. J'ai un statut particulier. Bon, je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais en tout cas, cet homme-là hein, a l'impression que que c'est enfoui, enfin que tout a été recouvert et qu'on a affaire à quelque chose qui va relever de l'archéologie, hein, que l'événement est sous cette couche, hein, d'asphalte, mais que ça reste là quand même dessous. Alors, on a cette représentation-là. Sur cette promenade-là réaménagée, on a également toujours des dépôts éphémères et discrets d'objets, très très discrets. Des fleurs qui sont déposées sur une plate-bande qui se situe entre les deux voies de circulation, des tout petits lieux comme ça, invisibles, hein, qu'on ne voit pas forcément si on ne les cherche pas. Et par exemple, les employés du nettoiement me disent à propos de ces dépôts très ténus, disent qu'il y a un monsieur qui dépose des fleurs de temps en temps, plus haut, au pied d'un arbre, je n'y touche pas. Et les balayeurs, c'est quelque chose de récurrent. Vous me suivez toujours? Je suis un peu passée de... Oui, ça va. Je vois Elisabeth, merci. La caissée. Du coup, voilà. Cette idée de... c'est toute petite trace invisible, très ténue, qui se glisse finalement dans cet ordre, dans cette mise en ordre forte. Voilà, donc on en observe quelques-unes. Et ce qui est intéressant, ben moi ce qui m'intéresse quand je vais faire des entretiens après auprès des balayeurs et des jardiniers, c'est justement cette idée, ils font très souvent le même geste, je n'y touche pas. Et je trouve que là, ça s'instaure autour de quelque chose qui est de l'ordre d'un silence, d'un signe à peine visible. Ça me fait penser au travail de Patrick Williams, auquel je pense beaucoup ces jours-ci, autour donc de ce silence et de ces traces à peine visibles, quelque chose de sacré, mais de discrètement sacré, voilà, minusculement sacré. Donc, on a observé ces dépôts-là, auxquels on ne touche pas. On a observé aussi des traces un peu plus pérennes, hein. Quelqu'un qui a essayé d'incruster au sol les 6 lettres d'un prénom, certaines lettres ont sauté, parce qu'il est compliqué d'accrocher des choses sur cet espace lisse finalement. Un rosier nain aussi qui pousse au pied d'un palmier, et les jardiniers là aussi, comme les balayeurs, disent on le respecte, enfin voilà, on ne l'abîme pas, on évite de l'abîmer, on le respecte, et effectivement, il tonde bien la pelouse autour, enfin. Et voilà, dernièrement, on a observé aussi le nom d'une victime inscrite sur une plaque vissée sur un banc. Et voilà, et ces acteurs donc anonymes, plus ou moins anonymes d'ailleurs, inscrivent la perte et son cortège d'émotions en ce lieu. On a également des sapins de Noël. Alors, une association de victimes installe chaque Noël le sapin des anges, donc pour les enfants morts dans l'attentat, sur la promenade des Anglais. Au niveau de la Villa Masséna. Et puis plus loin, une autre personne, la tante d'une victime, installe aussi à chaque Noël un sapin de Noël à l'endroit, plus ou moins, où sa nièce a été heurtée par le camion. Et des proches viennent déposer sur ce sapin-là, autour de ce sapin-là, des messages, des photos. Et parfois même, ils laissent des cadeaux cachés sous le sapin pour la sœur de la jeune fille à laquelle le sapin est dédié. Et puis, quand le sapin, quand Noël est passé, eh bien, la famille fait appel aux services municipaux pour qu'ils viennent donc emporter le sapin et pour qu'il ne reste pas là. Parce que la première fois, il avait déposé, il l'avait laissé, et puis bon, ils ont appris qu'il fallait quand même s'occuper de l'enlever, enfin, qu'on ne pouvait pas le laisser comme ça. Donc, ils appellent les services municipaux qui viennent enlever le sapin une fois que celui-ci est fané, entre guillemets. Alors, certains nous disent ne plus aller sur la promenade. Certaines personnes ne vont plus sur la promenade parce qu'ils ne peuvent plus, mais aussi pour marquer leur deuil, pour marquer leurs souvenirs. D'autres, au contraire, y vont. Et donc, on a recueilli comme ça à la fois des pratiques manifestes et en même temps des pratiques beaucoup plus invisibles. Et enfin, moi, je trouve ça intéressant, peut-être que c'est complètement banal, mais je trouve ça intéressant de ce que ça nous dit aussi, justement, et là, on retombe sur notre premier sujet, de ce qu'est un espace public. Un espace public qui est à la fois politique et marqué par des mémoriaux, par la perte, par des voies de circulation, etc., mais aussi par des pratiques invisibles et des toutes petites zones comme ça, enfin, toutes ces échelles, finalement, là, autour de la question de la perte, mais qui finalement contribue à faire d'un espace public un espace public. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est cette épaisseur. Hein, voilà. Et ce qui nous a intéressé aussi, c'était l'idée finalement que le travail du négatif revêt différentes formes hein, en ce lieu, à la fois l'unité esthétique et lisse d'un ordre sécuritaire, mais aussi justement l'expression fragile et discrète d'émotions singulières, plus ou moins tolérées, et dont la forme, les matériaux, la durée sont déterminés par ce nouvel ordre. Et finalement, justement, voilà, c'est ce que je vous disais, je l'ai un peu plus écrit, mais la mort et son traitement spatial mettent en exergue, me semble-t-il, ici, la complexité d'un espace public et les multiples échelles auxquelles la perte et les mouvements dialectiques qui l'accompagnent le constituent. Voilà, à la fois cette dimension politique et puis les formes ténues voilà, que j'ai essayé de décrire là sont aussi liées forcément hein, à la forme qu'a prise la mise en sécurité de la promenade. Et c'est là qu'on situe notre comment dire notre intention un peu structuraliste, hein, c'est de voir comment finalement voilà la mise en ordre produit du reste, produit de l'éviction, produit du déchet et donne lieu à d'autres formes, etc., etc. Voilà, je voulais vous parler aussi, mais peut-être que ça suffit, là, j'ai beaucoup parlé déjà, il me semble, du mémorial, mais c'est un peu la même chose, un mémorial qui était au départ, donc en marge, les proches des victimes pouvaient venir y déposer des objets, et progressivement, on voit ce mémorial qui est fragile, hein, qui est pas un grand monument, donc du coup, certains sont très mécontents de voir qu'il est un peu caché, et on le voit, en quelque sorte, gommer les singularités, hein. Maintenant, les personnes qui viennent des objets doivent être sur le bazar, donc plus de peluche, plus trop de désordre, c'est très contrôlé. Et les photos sont de plus en plus mises au même format et plastifiées. Et donc, on a 42 photos, donc pas la totalité des victimes, notamment parce que certaines personnes sont en désaccord avec la façon dont ce mémorial est constitué. Mais on a comme ça une uniformisation et une transformation de l'expression des singularités et de la douleur, je dirais, à travers la transformation de ce mémorial et en quelque sorte son lissage hein, et l'unité qui est en train de le gagner, l'unité formelle qui est en train de le gagner. Voilà, je crois que je vais arrêter là, peut-être de vous parler de ces travaux.
Merci infiniment Agnès, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement riche et qui donne à voir aussi, je dirais, les processus aussi de patrimonialisation très différents, par exemple avec ce qui se passe à Paris. Tu parlais du programme 13 novembre et je pensais à cet ouvrage coordonné par Jérôme Truc et Sarah Gensberger et qui reviennent aussi sur la façon dont, au contraire, là à Paris, dans les différents endroits, il y a eu sur ces hôtels éphémères un travail fait avec les archives de Paris pour garder et là pour au contraire mettre en avant la singularité aussi de chacun de ces messages et de ces...
Ça a